A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose d'écouter l'histoire non pas de un, mais de deux darons, puisqu'Adrien et Fabien ont réalisé un parcours GPA. Ensemble, on parle de leur rencontre et de leur envie d'être père. Ils me racontent les différentes étapes qui les ont amenés à devenir les papas de Jeanne, qui a aujourd'hui 3 ans, et que vous entendrez d'ailleurs dans l'épisode. J'espère que vous aimez cet épisode, parce qu'au-delà de l'histoire très touchante d'Adrien et Fabien, j'y ai appris plein de choses sur la GPA. Si vous avez une adresse email, je vous invite à vous abonner à la newsletter d'Histoire de Daron pour recevoir dans votre mail, pour chaque nouvel épisode, quelques coulisses en plus de vous prévenir que le dit épisode de la semaine est sorti. Vous pourrez retrouver le lien pour vous y abonner dans les notes de ce podcast. Si vous aimez Histoire de Daron, je vous invite à vous abonner également à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur votre appli de podcast préférée, ça aide à faire connaître le podcast. Mais vous pouvez aussi écouter Histoire de Daron sur Deezer, sur Spotify, sur SoundCloud, sur Audible et même sur YouTube, où vous pouvez venir poser un petit commentaire, même si vous écoutez Histoire de Daron dans votre téléphone. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de ce podcast. Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Et je vous laisse en compagnie d'Adrien et Fabien. Alors, je suis avec Adrien et Fabien. Salut.
Salut. Salut.
Alors, c'est un peu une première parce que d'habitude, j'ai un daron en face de moi. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans cet épisode, de venir me raconter votre parcours de daron. J'ai pas pu en choisir un de vous deux. L'objectif, c'est de vous avoir tous les deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, Adrien, Fabien?
Allez, je commence. Donc, Adrien, moi, j'ai 36 ans. Je travaille dans la publicité depuis maintenant 15 ans et je suis à Paris depuis 10 ans et j'ai rencontré l'homme de ma vie qui est à côté de moi il y a 12 ans maintenant, Fabien.
Et donc Fabien, moi j'ai 37 ans, je travaille aussi sur Paris dans le marketing. Voilà, depuis, ben, comme Adrien, 10 ans sur Paris et voilà. Daron depuis 3 ans.
On va en parler juste après. Effectivement, vous faites partie de ces couples qui avaient décidé d'avoir un enfant grâce à cette méthode qui s'appelle la GPA. Alors, comme je vous le disais juste avant qu'on démarre, je connais vraiment le strict minimum sur le sujet et j'ai pas voulu du tout me renseigner de trop parce que l'objectif pour moi c'était de vous poser un peu les questions bêtes que je pense peut-être beaucoup de gens autour de vous posent. Désolé si je vous les repose une nouvelle fois, mais en tout cas l'objectif c'est de peut-être la prochaine fois qu'on vous pose des questions bêtes, ah, l'enfant parle.
L'enfant appelle.
C'est important, hein. C'est le moment de la soirée, c'est compliqué.
Pourtant, on avait anticipé.
Alors,
on a mangé
ça
tôt.
Marche jamais.
Mais ça marche jamais.
Ça marche jamais. On veut un truc et puis ça fait complètement
c'est
l'inverse.
Ça.
C'est le but du
jeu.
C'est
la magie.
Ok, est-ce que vous pourriez, avant qu'on rentre un peu plus dans tous les détails, etc., me raconter un petit peu, chacun votre tour, parce qu'en général, j'ai encore une fois qu'un invité, votre parcours qui vous amène aujourd'hui à être parent, à être père, à être daron. Qui démarre.
Allez, je commence. Je t'avoue que déjà il faut remonter un peu loin, puisque quand t'es un garçon et que t'aimes les garçons, ou que t'es une fille et que t'aimes les filles, même si c'est peut-être un peu plus facile pour une fille, mais en tout cas quand t'es un garçon qui aime les garçons, tu le sais assez tôt déjà au fond de toi, t'as entre 11 et 13 ans, quand tu te rends compte que finalement tu regardes pas les filles comme les copains qui te parlent de filles toute la journée parce que ça commence à titiller un peu, et toi il y a d'autres choses qui te passent par la tête. Donc tu comme beaucoup de jeunes garçons à cet âge-là, tu enfuis ça bien au fond et puis tu le gardes, et puis il y en a, ça ressort plus ou moins vite, plus ou moins tôt. Moi, c'est ressorti assez tard quand même, puisque c'était à 25 ans, mon coming out. Donc, tu vois, juste avant...
Ton coming out à toi-même.
Mon coming out à moi-même,
oui,
déjà.
C'est ça.
Même si, bien sûr, tu sais que tu regardes les garçons, tu sais que t'es plus attiré par les garçons que par les filles. Mais déjà, t'essayes, hein, parce que j'ai eu des copines, plusieurs, parce que tu veux te convaincre qu'il y a une norme et tout est fait dans cette société pour que tu rentres dans cette norme-là. Et donc, tu essayes, et puis bon, bah, ça marche pas. Et puis, un beau jour, tu te fais une raison, et puis, effectivement, ce coming out, c'est, en tout cas pour ma part, ça a été un vrai déclic. Donc, tout ça est associé très tôt, finalement, avec le renoncement, on peut le dire, à être papa. C'est quelque chose qui se fait, j'ai envie de dire, tout en douceur, puisque tu n'as même pas le choix. Ça veut dire la société ne te laisse pas ce choix. Et donc, petit à petit, tu te fais à cette idée, puis tu te construis avec ce modèle-là qui sera le tien. Et puis c'est vrai que quand on s'est rencontré avec Fabien ce jour d'avril 2007, très vite, je pense quelques jours après notre rencontre. Bien sûr, comme tous les couples, tu parles de la vie, de comment tu vois les choses, de ce que tu as envie. Et puis très vite, j'ai émis auprès de Fabien, moi, mon projet à moi, qui était, même si je l'avais enfoui très loin au fond de moi, depuis des années, celui d'un jour être père. Comment ? Je n'en savais rien. Pourquoi ? Ça, je le savais, c'est que j'avais cette envie complètement folle de d'être père, de monter ma famille. J'ai une sœur jumelle, je suis très heureux, j'ai des parents magnifiques, des grands-parents magnifiques, et donc pour moi, la famille, c'est quelque chose de très positif, et donc j'avais envie de reproduire ça et d'avoir moi-même à mon tour ma famille pour donner autant d'amour que j'ai eu avec la mienne.
Je te coupe, mais quand tu dis complètement folle, c'est ironique ou...
complètement folle dans la situation dans laquelle je suis à 25 ans, avec mon coming out tout frais. Oui, cette situation est complètement folle. En tout cas, cette volonté est complètement folle, puisque elle est à l'époque complètement irréalisable. Hein, faut se remettre il y a 12 ans en arrière. Les trois lettres GPA, je pense, n'existent même pas. Et même si c'est une réalité déjà depuis quelques années, hein, puisque le premier enfant né par GPA, en tout cas, qu'on connaît et qui a été médiatisé et qu'il assume, c'est la jeune fille à 16 ou 17 ans aujourd'hui. Donc, c'est déjà une réalité, mais nous, comme tous les Français d'ailleurs, on n'en a aucune idée et on ne sait même pas que c'est possible. Voilà.
Et de ton côté, Fabien ?
C'est assez similaire. Du coup, moi, le fait que je préfère les garçons. Donc moi, j'ai moins testé, hein, qu'Adrien, pour le coup.
Oh, comme il balance.
Mais moi, c'est plutôt à 18 ans. Je sors du lycée. La bande de copains fait que du coup, je commence à m'assumer, etc. Mais juste auprès de mes copains. Du coup. Moi, j'ai d'abord assez mal vécu le fait de renoncer plutôt au couple connu. Donc, je me disais, je pourrais jamais me marier avec tout le monde. Moi, je suis une grande famille aussi plutôt catholique, agriculteur. Donc, voilà, avec emprise de la famille assez forte aussi. Donc, moi, c'est ça qui m'a d'abord marqué. Alors, les enfants, du coup, ça me traversait même pas l'esprit, en fait. Et pourtant, voilà, moi, je suis l'aîné dans les quatre enfants. Et j'ai plein de cousins et de cousines aussi plus jeunes. Donc, j'ai fait pas mal de babysitting et tout. Donc, moi, la partie familiale avec les enfants était aussi importante. Mais c'est finalement en rencontrant Adrien où je me suis dit, on verra comment. Mais moi aussi, c'est vraiment quelque chose qui... pour le coup, fait partie de mes valeurs familiales aussi et de la transmission que j'ai de mes parents. Donc, on a mis un peu de temps à se dire, OK, maintenant, on va y réfléchir, on va aller creuser un peu.
En fait, c'est l'heure pour elle de se coucher, c'est ça ? Ou elle a envie de faire partie de la fête ?
Je pense. En fait, on avait prévu qu'elle s'endorme juste avant que tu arrives.
Qu'on a une bande pas comme ça.
Je pense qu'on l'entend un peu au fond. On a une petite bande son
de Jeanne qui... Voilà. qui veut participer à la fête, voilà. Qui veut voir le monsieur qui vient pour faire l'émission.
Ouais. Mais vous pouvez, enfin après je sais pas. Si
oui, c'est... non, mais c'est juste que après là, on est parti. Si on l'élève, elle est partie juste pour une heure et demie. Et là, pour le coup, ça sera trop dur demain matin.
Ok, donc toi de ton côté, un vrai truc en termes de famille. Enfin, tous les deux, en fait, je pense que c'est un vrai truc qui vous rapproche sans doute. Ouais. D'avoir des vraies envies.
Les valeurs
de...
familiales, ouais.
Une fois que vous vous êtes dit ça, tous les deux, vous vous retrouvez bien beau, j'imagine. Vous dites, bon, bah cool, comment on fait ? C'est quoi le chemin qui vous amène à la solution GPA ?
En fait, on a longtemps... Enfin, moi, au début, j'étais plutôt adoption. Okay. Je me disais, voilà, il y a tellement d'enfants qui sont là, malheureux, qui vont jusqu'à la majorité dans des centres, dans des orphelinats. Après, une fois qu'on a dit ça et que tu te renseignes, pour deux papas, c'est assez difficile. Ou alors, il faut pas se marier, il faut cacher que le fait que t'es en couple, du coup, en père célibataire. Donc, déjà, ça c'est pas quelque chose, on n'était pas très serein, le fait de se cacher comme ça. Et on a quelques couples d'amis qui sont lancés là-dedans, et il y en a assez peu pour qui ça arrive finalement, ils arrivent à adopter un enfant. Voilà. Et c'est vrai que moi, je me sentais pas trop psychologiquement, émotionnellement, me dire attendre 5 ans pour pas. Ouais. Ouais, je me sentais pas trop. Et après, du coup, on a fait quelques recherches. Et...
Bah, faut même se dire que dans notre entourage, on connaît un couple qui a réussi à adopter.
Bah, maintenant.
Maintenant, après peut-être le deuxième agrément qui était tombé. Et finalement, la réalité, c'est qu'on voyait plutôt. Des couples qui désespèrent parce que ils voient l'agrément arriver à son terme et leur dossier, parce qu'ils sont deux papas, mis en dessous de la pile, voire pour certains qui, comme le disait Fabien, mentaient et disaient qu'ils étaient pères célibataires. Et on respecte tout le monde et les choix de chacun, mais c'est vrai que nous, c'était impensable de nous dire on commence finalement ce projet sur un mensonge. Et ça, et c'est vrai que c'est notre fil conducteur dans tout notre projet de famille qui est atypique, on le sait, en tout cas qui n'est pas la norme. C'est la transparence, c'est la vérité, parce que on est convaincu que en tout cas notre fille Jeanne, c'est le fruit de notre amour et que en étant transparent avec elle, en lui expliquant les choses, ça va bien se passer, tout simplement.
Bon, comme tu réponds pas trop à la question, je vais continuer. Mais
ceci dit, c'est très chouette.
Oui, c'est vrai. Je suis d'accord.
Pour parler un peu du parcours de l'adoption, enfin pour revenir un peu sur le parcours d'adoption, il est déjà, je pense, très compliqué pour des couples hétéros classiques, on va dire. J'imagine qu'effectivement, alors je sais pas quand est-ce que c'était, quand est-ce que vous êtes renseigné en plus.
Bah nous, c'était il y a 5 ans.
Ok.
Il y a 5 ans, on a choisi la GPA.
Donc c'était il y a 7, 8 ans, entre 7,
ouais. Voilà. Et donc là, pour 2010, le coup, on n'avait pas 2011. D'exemple. Qui avait marché à l'époque. Et en fait, en se renseignant sur Internet, je pense, c'est là qu'on a entendu parler de la GPA et on a mis, je pense, on a fait des recherches pendant 2 ans. Parce que c'est un terme un peu barbare, c'est une femme que tu connais pas, qui porte ton bébé, mais du coup, tout le côté, toutes les questions que finalement plein de gens se posent, tu utilises son corps, c'est assez difficile et long pour se renseigner, surtout de France, puisqu'au final, comme c'est illégal de faire une GPA en France, du coup, les renseignements, ils sont assez difficiles à trouver.
Peut-être est-ce que on a eu de la chance, nous, que la Manif pour tous soit pas finalement en place à ce moment-là. Parce que je pense que c'est beaucoup plus violent pour un couple qui commence aujourd'hui la démarche qu'auparavant, parce que nous, encore une fois, il y a 6 ou 7 ans, personne n'en parle, donc c'est quelque chose qui est inexistant. Quand on commence à en parler à nos parents, à nos grands-parents, alors on explique les choses, il y a eu des documentaires petit à petit qui sont arrivés, donc on a pu montrer ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu ces opposants aux libertés que sont la Manif pour tous, qui arrivait avec des arguments en plus qui sont complètement faux.
Un papa, une maman, je veux dire, c'est ce que le bon Dieu il a dit qu'il fallait que ce soit, quoi, la nature, hein, tout ça.
On en a
vu passer plein. Je mettrai des liens dans les notes du podcast pour les gens qui veulent se renseigner un petit peu. Ça a été assez dur.
Exactement. Et en fait, on a rencontré une association de familles homoparentales qui s'appelle l'ADFH. En fait, il y en a deux en France. Il y a l'APGL et l'ADFH. Donc nous, on était adhérents à l'ADFH. Et en fait, ça marche sur un système de forum. Et c'est beaucoup de partage d'expériences. Et on a rencontré, je pense, trois couples à Paris qui ont eu des enfants par GPA. Et ça nous a permis de nous poser des questions, toutes les questions qu'on avait par la tête. On a fait deux réunions aussi où là, s'il y avait plus des avocats qui expliquaient aussi un peu ce qui se passait dans quel pays, la GPA éthique, parce qu'on entend aussi beaucoup de pareilles choses en Europe de l'Est, etc., en Inde, mais voilà, nous c'est vraiment la GPA éthique aux États-Unis pour notre cas. Donc voilà, ça a permis aussi de démystifier tout ça, de rencontrer des vrais gens, des vraies familles déjà, et ça pour nous c'était génial la première fois.
La première fois on a vu un couple avec un enfant, un petit garçon. C'était fou parce que c'était que sur le papier, c'était que des choses qu'on voyait. Et là, pour la première fois, on rencontrait ce couple qui nous avait proposé sur le forum de venir prendre un café un après-midi chez eux. Et là, on arrive chez eux et on voit ce petit gars de, je sais plus, il avait 2 ans, je crois. Et du coup, nous, depuis, on en a reçu quelques-uns, des couples pour faire pareil parce qu'on s'est rendu compte, enfin, c'était tellement important pour nous. Et là, ce jour-là, on en a encore ému aujourd'hui. C'était OK, c'est possible. Et là, tout s'accélère parce que, ok, c'est possible, mais c'est quand même, c'est possible, mais c'est le parcours du combattant. Le parcours du combattant commence.
Et il y a un autre, et ça je le dis à tout le monde, c'est un super documentaire qui est sorti au cinéma à l'époque, qui s'appelle Naître Père, qui suit un couple d'hommes parisiens dans la démarche. Donc c'est vraiment fait en documentaire, c'est hyper bien fait, c'est notre histoire en fait. Maintenant on le voit, c'est l'histoire de tous les couples qu'on a rencontrés. Ouais. Donc voilà, c'est un super documentaire franchement à regarder, il est disponible à la vente sur plein de plateformes.
Et en DVD, d'ailleurs on avait commandé ces DVD et on les avait offerts à nos parents, nos grands-parents, et on les a regardés avec eux. Et on les a laissés nous poser toutes les questions qui leur venaient en tête. Et voilà, on a voulu faire ce chemin aussi avec eux. Et ça, c'était génial parce que on les a vraiment embarqués dans ce projet depuis le début.
Ouais. Et c'est devenu notre projet à nous tous, en fait, avec nos parents, nos frères et sœurs. Et c'est pour ça que c'était aussi une belle histoire.
C'était vraiment votre objectif à ce moment-là de vous dire « Ok, faut que ce soit un truc de famille ». C'est une super idée, j'avoue que j'y avais pas forcément pensé, mais de me dire « Comment on fait pour raconter ça, justement ?»
Alors, le problème, c'est que ces années, parce que ça prend du temps, hein, nous on a mis 3-4 ans avant de commencer. Et par contre, au moment où on a commencé vraiment à rentrer dans le projet, nos amis de la Manif pour tous sont sortis du bois. Et donc, c'est à un moment du coup, on a dû expliquer les choses, expliquer les contre-vérités et montrer la réalité de ce qu'est une GPA éthique. On s'est aussi renseigné, on a vu ce qui se passait, comme le disait Fabien, en Inde, en Ukraine, où c'est de la traite d'êtres humains. Faut se dire les choses. Et bien évidemment, donc les frais sont 10 fois moins élevés quand on va en Ukraine ou en Inde, que quand on le fait de manière éthique aux États-Unis ou au Canada, là où c'est légiféré depuis une petite vingtaine d'années.
Peut-être il faut qu'on explique du coup pourquoi c'est éthique.
Je pense que c'est important, mais c'est quoi un peu qu'est-ce que vous appelez par qu'est-ce que vous appelez GPA éthique ? C'est justement il y a un cadre, c'est ça ?
En fait, il y a un cadre juridique aux États-Unis. Ça doit faire à peu près une vingtaine d'années maintenant qu'ils font ça. Déjà, il y a une chose que peu de gens savent. En tous les cas, on raconte souvent notre histoire aux gens qu'on rencontre, et pour l'instant, personne ne le savait. Donc, s'il y a 3 personnes dans une GPA, tu as une donneuse d'ovocytes, nous, les donneurs de nos spermatozoïdes, et une surrogate, une femme porteuse qui va porter. Donc, en fait, la femme qui porte l'enfant pendant 9 mois n'a aucun lien génétique. Ce ne sont pas ses ovules. Donc, ça, c'est un point qui est hyper important. Parce que c'est aussi ce qui explique, c'est une condition sine qua non pour qu'elle sache vraiment bien ce qu'elle fait, qu'elle ne porte pas son enfant, mais l'enfant d'un autre, pour un autre. Et en fait, aux États-Unis, donc c'est un système qui est plutôt bien encadré, des avocats spécialisés, des agences, des cliniques spécialisées. Et en fait,
peut-être rentre dans le détail de, tu vois, du rôle de chacun.
Oui.
De l'agence. Non, mais parce que l'agence, c'est un peu le point de départ de tout. C'est l'agence qui fait qu'on se rencontre aujourd'hui avec toi.
C'est l'agence qui nous a contacté, effectivement.
Donc une agence, ça paraît un mot un peu bizarre. Ça fait penser à l'immobilier ou. Pas du tout. En fait, l'agence, c'est elle qui, enfin, son talent, c'est de faire rencontrer les bonnes personnes et de matcher, comme on dit, la donneuse avec les bons parents d'intention. Donc, la donneuse, ça veut dire est-ce que elle veut être anonyme, est-ce qu'elle veut pas être anonyme, est-ce qu'elle veut être en contact avec les parents d'intention, est-ce qu'elle veut pas être en contact avec les parents d'intention. Il faut bien avoir en tête que les donneuses, elles ont entre 20 et 25 ans maximum. Donc, dans la grande partie des cas, encore une fois, chaque histoire est très différente. Dans la majeure partie des cas, c'est souvent des jeunes filles comme nous, on va faire un don de sperme ou pour aider quelqu'un d'autre, sans y mettre derrière forcément une volonté de créer une histoire avec les parents d'intention. Après, il y a d'autres, on a des exemples dans nos amis très proches où ils le font, mais dans la grande partie des cas, elles sont très jeunes, parce que tout simplement, les ovocytes à entre 20 et 25 ans sont ultra féconds. Mmh,
Donc c'est les cliniques qui veulent que ce soit moins de 25 ans.
Donc c'est les cliniques, hein, c'est pas.
Parce qu'il y a
plus
de chances de taux de réussite que. Après.
Et donc ensuite, donc ils nous matchent avec cette donneuse, et ensuite ils nous matchent avec la surrogate, où là c'est le match le plus important, j'ai envie de dire, puisque c'est avec elle qu'on va créer l'histoire, qu'on va créer un lien. Et là, là, c'est un talent fou parce que il faut que les souhaits de part et d'autre, à la fois des parents d'intention et de la surrogate, soient ultra alignés pour que le projet fonctionne bien. Et nous, on a, enfin, dans tous les amis qu'on a autour de nous et tous les gens qu'on a rencontrés, le match était à chaque fois parfait. C'est-à-dire, nous, on s'est dit, mais on a eu une chance extraordinaire. Ah, mais eux aussi, ils ont eu une chance. Mais en fait, non. Tous les gens qui, tous les amis et les gens autour de nous et les gens de l'association qui ont fait ce parcours, encore une fois, de GPA éthique, ont tous finalement, même si on aimerait être unique, ont tous la même histoire que nous, où ils vont tous passer des vacances aux États-Unis. Ils ont la famille américaine qui vient passer des vacances ici pour le baptême ou pour un anniversaire. Et donc ça, voilà, l'agence, elle a vraiment ce talent-là de matcher et de faire correspondre les volontés de quelle histoire, quel lien on va garder. Ça veut dire, est-ce que vous voulez, bah, une fois que la grossesse est passée, voilà, chacun reprend sa vie, ou est-ce que vous voulez que une fois par mois, une fois tous les six mois, vous allez rester en contact. Et tout ça, en fait, au début, c'est un peu virtuel. Et puis, en fait, ça, tout ça est très naturel parce que justement, cette agence, elle a le talent de matcher les bonnes personnes autour de ce projet-là.
Et en fait, elle nous présente, nous on fait un Skype, et en fait, nous on dit ok, on est d'accord avec cette famille, puisqu'en fait, on parle de la femme porteuse, mais c'est toute sa famille. Et donc nous, on entre Daniel comme ça en Skype avec son mari John et ses enfants. Et donc nous, on est sortis du Skype, je pense une demi-heure, on s'est dit c'est sûr, c'est eux. On avait rencontré trois avant où ça avait pas marché pour des raisons plutôt médicales. Et c'est vrai, quand on les a rencontrés rien que par Skype, on se dit, on sentait les valeurs, la vie. Alors c'est qu'une demi-heure de Skype d'introduction, mais tu sens quand même il y a quelque chose qui se passe un petit peu. Et elle aussi surtout valide. Donc en fait, il y a personne qui valide plus que l'autre. Il faut que tout le monde soit d'accord pour mener ce projet ensemble.
Et c'est surtout effectivement, elle qui choisit. Ouais. C'est souvent la surrogate qui choisit les parents d'intention.
Eux, ils ont souvent plusieurs choix. Alors d'accord. Que nous, on nous en présente qu'une en général. En tout cas, pour l'agence avec laquelle.
Ces délires de catalogue, de. Enfin voilà, ça, c'est des choses de.
Parce que
la manif pour tous, c'est un catalogue, on est au supermarché de l'enfant et on va choisir son enfant sur un rayon, on va choisir son sexe, sa couleur des yeux, c'est du délire, on ne choisit pas le sexe, on ne choisit pas la couleur des yeux,
c'est pas Gattaca quoi, c'est
non.
Non.
Et surtout,
c'est une histoire de rencontre.
En fait. Surtout, vraiment, c'est la plus belle rencontre qu'on ait fait de notre vie avec Daniel. On était encore là il y a une demi-heure, on a fait un Skype avec Daniel pendant une demi-heure. On le fait on le fait quoi tous les deux, trois mois?
Ouais, quand on a envie.
Tu vois, on s'envoie sur WhatsApp des photos.
Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez matché avec Daniel, donc, en particulier?
Je pense qu'on avait la même vision de la famille, déjà. Mm. Des valeurs un peu de famille. Parce qu'on, quand on discute avec l'agence, il nous pose beaucoup de questions aussi sur notre famille. Est-ce qu'on voit souvent nos frères et sœurs, etc. Donc là, il y avait un bon match sur le lien à la famille, frères et sœurs et parents. Et sur les mots qu'on a choisis, et qu'elle a choisi, elle, pour décrire l'aventure, était assez similaire au nôtre. Parce qu'en fait, au début, ça commence quand même par un petit dossier où chacun se présente, dit ce qu'il voudrait, pourquoi, etc. Et là, en lisant le dossier, les mots qu'elle avait choisis, elle et son mari, pour décrire cette expérience, ça nous a tout de suite parlé, en fait. Rien que là, déjà, on se disait, c'est assez difficile à décrire.
Ouais, je comprends.
Mais c'est... Ouais.
C'est quoi sa motivation à elle, à ce moment-là? C'est un peu la question que je me pose aussi, c'est qu'est-ce qui fait que cette femme qui a déjà des enfants, etc., un mari, se dise « Ok, je vais faire je vais porter cet enfant pour ce couple-là ». Alors, il y a un aspect financier, j'imagine qu'on en reparlera peut-être un peu après, qui n'est pas négligeable, mais je ne pense pas que c'est que ça, hein. c'est pas un métier, quoi.
Alors, nous, Daniel, je vous raconte une anecdote.
Vas-y.
On était là-bas. À Jacksonville, hein, Daniel habite en Floride. Et donc, on était allé, pour les 6 mois de grossesse, je crois, on était allé là-bas passer quelques jours. Puis un matin, moi, je me lève tôt et là, je suis avec sa maman. Puis on était logés chez ses parents, ils avaient voulu nous accueillir. Je lui dis au petit déjeuner, donc à Nicole, la maman de Daniel, je lui dis, mais vous savez ce que fait votre fille pour nous, c'est extraordinaire. Enfin, est-ce que vous vous en rendez compte? Et là, elle me répond en rigolant, mais c'est une blague. C'est vous qui faites quelque chose d'extraordinaire pour notre fille. Daniel, elle avait 34 ans à l'époque. Elle a notre âge. Daniel a 34 ans. Ça fait depuis qu'elle a 20 ans qu'elle nous dit régulièrement, un jour, je porterai un enfant pour un couple qui peut pas en avoir parce que c'est la chose la plus injuste qui soit, selon elle. Et donc déjà, elle est très croyante, ce qui est souvent le cas, hein, des surrogates aux États-Unis. Elles sont souvent très très croyantes et finalement c'est leur c'est la BA, quoi. C'est dans le si tu veux, c'est elles peuvent pas donner plus que à un autre que ça, que porter leur bébé parce que on peut pas en avoir. Et donc là, quand elle m'a dit ça, c'était extraordinaire et je me suis rendu compte là. Il y a eu un avant et un après, ça veut dire je me suis dit, ok, donc c'est pas notre projet à nous, c'est aussi leur projet, et c'est peut-être même avant que ce soit le nôtre, c'était déjà le sien, puisque ça remonte à 15 ans auparavant, et là du coup ça nous fait voir finalement et la relation et le projet dans d'un tout autre angle. Où on se sent tous embarqués avec eux, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec ses enfants, dans ce projet fou, finalement, de nous aider à fonder notre famille.
Et elle, en effet, quand on lui en parle, elle raconte qu'elle a eu deux oncles et tantes de chaque côté qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Et donc, elle dit que ça l'a marqué, la peine qu'ils avaient. Et donc, je pense que c'est ça qui a sans dû aussi créer cette envie de le faire pour d'autres. Et en discutant aussi avec plusieurs couples, on se rend compte qu'il y a souvent ça quand même qui tourne autour des gens qui ont vu des proches souffrir de ne pas pouvoir avoir d'enfants, qui, sans doute avec un altruisme exacerbé chez ces personnes, fait tilt et disent « Ben moi, quand j'ai fini ma famille, entre guillemets, je ferai ça ». Et Daniel, c'était ça, quoi. Et son mari, pareil. Son mari, on lui disait « Mais ta femme, elle va être avoir un bébé de pas toi ».
Oui.
Elle dit « Non, mais c'était clair depuis le début, depuis qu'on se fréquente. Elle m'a toujours dit qu'elle voulait faire ça. Il n'y a aucun problème ». Et en fait, c'est un projet de sa famille, elle, parce que son mari, il a sa femme tous les jours
oui.
dans son lit,
oui.
qui est enceinte de pas lui. Les enfants, c'est pareil.
Mais
en fait, c'est hyper clair pour tout le monde. Et ses enfants, une autre anecdote, mais qui est aussi assez symptomatique.
Ils avaient quel âge, ces enfants?
Ils avaient 6 et 8 ans.
Okay.
Et je sais plus, un jour il devait être à la pompe à essence, et puis la pompiste elle dit à la petite fille, elle lui dit ah bah tiens, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. La petite elle dit bah non, et c'est tout. Alors, Daniel lui dit bah il faut que tu lui expliques parce qu'elle veut pas savoir. Elle lui dit mais non, mais elle porte le pas moins, elle porte le bébé de Fabien et Adrien en France. Donc c'était hyper clair et hyper limpide pour eux que voilà ce que leurs parents faisaient. Et tu sentais aussi de la fierté pour eux aussi, quoi. Et donc nous on leur disait ah, faut que tu prennes soin de Jeanne dans le ventre. Elle racontait des, enfin c'était vraiment le projet de tout le monde, quoi. Merci.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Cool.
Tu parlais de l'aspect financier.
Ouais.
C'est important parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes par rapport autour de ça. Donc, plusieurs règles pour une surrogate. En tout cas, encore une fois, aux États-Unis et au Canada, c'est à peu près les mêmes règles. Sur une GPA éthique, la surrogate doit avoir construit sa famille. Ça veut dire qu'elle doit avoir eu des enfants, obligatoirement, que son projet à elle de famille est terminé, donc qu'elle ne veut plus avoir d'enfants. Il y a des entretiens psy, hein, donc il y a une psychologue qui nous fait des entretiens à nous, donc on a dû aller là-bas, qui fait des entretiens à la surrogate, à son mari également, pour être sûr que tout le monde est bien aligné et avec la volonté. Et sur l'aspect financier, il ne faut pas que la surrogate ait besoin d'argent pour vivre. Ça veut dire, bien sûr, quand on a entre 20 000 et 30 000 dollars pour les 9 mois de grossesse de compensation, puisque c'est globalement la compensation qu'a une surrogate aux États-Unis, ça va lui améliorer peut-être son quotidien. Et encore, je pense que j'ai jamais été enceinte, mais je pense que ça, c'est pas une partie de plaisir et c'est pas du fun pendant 9 mois. Donc c'est pour ça qu'on parle de compensation. Et il ne faut pas qu'elle ait besoin de cet argent pour vivre. Donc, il vérifie les fiches de salaire, hein, les contrats. Il faut qu'elle ait un travail, etc., etc., etc. Après, vu qu'on est aux États-Unis et que nous on est français, c'est sûr, on paye tout. C'est-à-dire, il y a aucune sécurité sociale. Ils en ont déjà pas beaucoup, les pauvres. Alors là, en étant, et c'est tout à fait normal, en étant citoyen français, on va pas bénéficier du peu de système qu'ils ont aux États-Unis. Donc on paye tout. Ça veut dire, on paye l'avocat de la donneuse, l'avocat de la surrogate, qui vont les défendre et défendre leurs intérêts, notre avocat à nous, les contrats, les frais de l'agence, la clinique. Tous les examens, parce qu'on n'en a pas parlé, mais super important, c'est aussi la clinique dans tout ce processus, puisque c'est la clinique de reproduction, donc qui va faire la fécondation in vitro et ensuite qui va l'implanter. Donc ça coûte très cher. Alors nous, en France, on se rend pas compte, mais quand on va faire une échographie, bah là-bas on paye 1 000 $ une échographie, et on en fait toutes les 2 ou 3 semaines, parce que c'est une grossesse spécifique. Quand on va 2 jours à la maternité, il y en a pour 15 000 $. Nous, on s'en rend pas compte, parce que quand on sort de la maternité, déjà on y reste plutôt 4-5 jours. Là-bas, étonnamment, au bout de 24 heures, on dit « je pense que vous pouvez rentrer chez vous ». Donc, il reste très peu de temps à la maternité parce que ça coûte très cher. Et du coup, on paye effectivement tous ces frais. Cette compensation, ça permet de payer les vêtements de grossesse, des compensations si elle doit s'absenter de son travail pour aller à...
Les babysitters pour gérer ses enfants, parce que pour le coup, on prend quand même sur sa vie de famille aussi.
Donc voilà, donc c'est pas ça, parce que compte, ça représente une somme quand on additionne tout ça assez incroyable, parce que ça coûte entre 100 et 150 000 dollars. Donc 100 et 150 000 dollars, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Nous, malheureusement, on l'a pas trouvé non plus sous le sabot d'un cheval. Donc, quand c'est un projet comme ça que tu as en tête depuis tant d'années, ben finalement, toute ta vie, elle commence à tourner autour de ce projet-là et de se dire, ben, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir trouver cet argent-là, parce que on n'a pas des parents qui ont de l'argent à nous donner comme ça, on n'a pas des métiers qui nous permettent de sortir autant d'argent. Et donc, bah, on a commencé à mettre en place.
Vous avez épargné.
À mettre en place tout ça, épargné. On a la chance d'être à Paris. On a acheté un appartement. On s'est dit, on était dans le 11e près de Bastille. Ça avait bien pris. On s'est dit, au bout de 4 ans, alors qu'on y serait certainement resté. Enfin, non, on était Montorgueil. On s'est dit, on le vend. Parce que si on le vend, on fait la plus-value et on sort exactement l'argent dont on a besoin.
Okay.
Donc, oui, on adorait le quartier, bien sûr. On adorait être rue Montorgueil par rapport à Le Drou-Rollin où on est allé plus tard. Mais c'était plus fort que tout, quoi. Ce projet de bébé était bien au-delà de notre confort à nous personnel du petit quartier bobo où on habitait. Donc, finalement, voilà, on met tout ça en place pour que ça marche et qu'on puisse le faire. Et quand on regarde autour de nous, on a quand même beaucoup de couples qui sont dans la même mécanique que nous.
Il veut te couper la parole.
Non, non.
Pourquoi tu dis t'en
Parce qu'il n'y a pas de question-réponse là.
T'inquiète, si j'ai des questions qui viennent.
C'est quand tu les lances après.
De votre côté, la fécondation a marché du premier coup, parce que j'imagine que si ça marche pas du premier coup, il faut encore ouais. refaire une nouvelle insémination, ouais. c'est des nouveaux frais, etc. Ouais. C'est ça.
En fait, t'as d'abord les fécondations in vitro. Après, ils cryogénisent à 5 jours les embryons qui sont développés.
Ça s'appelle des blastocytes.
Ouais, merci. Et par contre, du coup, on connaît la terminologie.
Vous êtes au taquet.
Les hormones, tout ça. Et donc, ensuite, donc ça, c'est congelé. Et en fait, il les décongèle juste au moment de faire le transfert, une heure ou deux avant. Donc, en fait, après, la FIV, elle est faite. Par contre, il faut en effet refinancer chaque transfert. Et avant chaque transfert aussi, il y a des hormones et tout un espèce de cycle de prise de sang et pas mal de contrôles médicaux tous les deux jours juste avant. Donc c'est ça aussi, en effet, qui...
Et pour répondre à ta question, moi aussi, hein, je peux bâcher un peu. Oui, on a eu beaucoup de chance, nous, ça a marché du premier coup.
Ah ouais.
Effectivement. Alors, ce qui est entre 70 et 80% des cas, hein. Ça marche du premier coup. Et pareil, on n'implante pas 3 embryons pour avoir un bébé. On implante.
On a posé cette question aussi, hein, en disant, mais si on en veut un, on faut en mettre 2. Et le docteur nous a regardé en disant, si vous en mettez 2, il y a 82% de chances que vous en aurez 2. On a dit, non. 1, c'est bien déjà, on verra. Déjà. Donc, mais maintenant, la science a vachement évolué. Pour le coup, là, nous, la clinique qu'on avait choisie, elle était en effet à 82%, un truc comme ça. Donc, c'est
à l'américaine. Hein. Ouais. Les taux, tu reçois les taux de réussite des cliniques.
Et dans les plaquettes et tout.
Après, faut se mettre aussi. Ça aussi, ça n'a pas été simple de nous mettre à l'heure américaine, quoi.
Surtout vis-à-vis de l'argent.
Tu vois, ils n'ont pas du tout le même rapport à l'argent que nous. Ils parlent de ça. Tu vois, moi, je me souviens.
Ils rentrent en égo pour un nom sur des trucs qui sont pour nous quand même assez life changing.
Tu te rappelles, 3 jours avant le transfert, ces gens, là, vous devez faire un virement. Nous, on pensait qu'il était fait. Vous devez faire un virement. Si vous ne faites pas, on annule le transfert.
Ouais, c'était vendredi soir, c'était lundi matin.
Et puis, t'as pas le médecin en ligne, t'as le service la compta, en gros, qui te parle comme si tu venais dépenser ton argent pour
acheter une voiture.
Ouais, c'est ça.
Et donc, ils sont tellement décomplexés avec l'argent, plus associé au fait que ça fait 20 ans qu'ils font de la gestation pour autrui, et que du coup, ils sont très décomplexés aussi vis-à-vis de ça. Ça fait que nous, on a mis un peu de temps à s'adapter à ça.
C'est aussi le rôle de l'agence de nous expliquer tout ça à nous Français, enfin c'est pas le même système, même pas la même façon. Donc l'agence elle est aussi importante et l'agence c'est aussi une histoire humaine parce que c'est eux qui nous représentent aux US dans un monde qu'on connaît pas bien, en tout cas tout ce qui est juridique, médical et tout. Donc là aussi c'est pas mal de relations humaines en fait, parce qu'il faut avoir de la confiance parce que une fois que t'envoies ton mail, que t'as eu ton call, c'est eux qui gèrent. T'es obligé de les laisser faire, quoi.
Et nous, c'est comme ça qu'on a choisi Open Arms. À Tampa, c'est vraiment le contact humain qu'on a eu avec eux. Où c'était une petite agence. On voyait qu'il y avait des grosses agences qui géraient ça à l'appel. Et nous, on arrivait quand même avec cette volonté d'avoir de l'humain au cœur de tout ça et avant tout. Et ça s'est très très bien passé avec eux. Hein. Vraiment, c'est un contact quotidien quoi, pendant un an, deux ans, trois ans parfois.
Ça a quand même duré deux ans, hein, même si ça marche du premier coup.
Alors la grossesse, 9 mois, je rassure tout le monde.
Non mais deux ans, juste à partir du moment où on a commencé à aller voir l'agence et au moment où Daniel est tombé enceinte.
Ah oui, ok.
Parce que c'est tout un cycle. Bah, hein. Oui. Tout le cycle, le check avec les psys, l'avocat, choisir la clinique.
Puis on s'est adapté à son rythme, à elle aussi, qui était, elle voulait attendre 6 mois avant de faire le transfert parce que elle voulait régler des affaires perso de business qu'elle avait. Et donc voilà. Donc bien sûr, nous, on a attendu 6 mois. Et ouais, on a eu beaucoup de chance. Il y en a pour qui c'est dur, tu vois, quand ça fait. Quand tu transfères 3, 4 embryons, que ça marche pas, qu'il faut changer, qu'il faut recommencer la donneuse, parce que tu te rends compte qu'en fait, bah, c'est les ovules qui doivent pas être aussi fécondes que ce que tu avais pu imaginer. Donc tu recommences ça, ou alors changer la surrogate au milieu, alors que tu as commencé. Ça fait un an et demi que tu échanges avec elle, tu es allé là-bas, tu l'as rencontré, tu as rencontré ses enfants. Et puis, enfin voilà, nous, on touche du bois. Mais on a eu vraiment énormément de chance mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est un vrai, quand je parlais de parcours du combattant, c'est vraiment ça, quoi.
Parce que j'ai l'impression de ce que vous me racontez là, que ça a pas été, enfin, je pense que ça a été long et que ça a été beaucoup de contraintes, etc. Mais quand tu parles de parcours du combattant, j'ai pas l'impression de ce que tu racontes là, en tout cas, que ça a été.
On a eu de la chance.
Bah, en fait, c'est parcours du combattant parce que c'est à l'étranger, c'est pas dans ta langue, c'est pas dans ton système. Mais c'est vrai que nous, ça s'est bien passé. On est plutôt des garçons positifs. Donc, puis ça s'est relativement quand même bien passé. Mais t'as des moments où tu comprends pas les mails que tu reçois de l'avocat ou tel truc. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Donc t'as des on avait rencontré nous trois femmes porteuses avant de trouver Daniel. À chaque fois t'as des pics émotionnels en disant c'est super, et en fait le médecin te dit ah bah non, voilà, ça marche pas pour qu'il soit avec raison, son dossier médical, blablabla. Et voilà, donc ça c'est des up and down émotionnels. Et puis on n'a pas raconté l'accouchement encore,
non, mais... Et puis t'as les 9 mois de grossesse où on a eu beaucoup de chance. parce que c'était la grossesse, ça a été
c'est bien passé,
quoi. Et du coup on imaginait comment on aurait dû gérer parce que c'est arrivé à des gens autour de nous, ça arrive tous les jours, mais comme n'importe quelle grossesse, hein, à un moment donné c'est un embryon à partir du moment où il s'accroche sur l'utérus et puis il faut attendre 9 mois. Alors oui, les 3 premiers mois on est un peu stressé, mais jusqu'au bout il peut se passer des choses, et c'est déjà pas facile quand t'es à côté, mais alors quand t'es à 9000 km, et que tu imposes ça, parce que donc combien de fois tu culpabilises à la fin de la grossesse quand tu vois que ça commence à être tu vois que le ventre est énorme, tu vois qu'elle est fatiguée, même si nous elle a toujours été ultra positive, hein. non les garçons, ça va super, ça se passe super. Je pense que voilà, moi il y a des jours qui devaient être plus compliqués que d'autres, hein, il y a pas de raison. Et elle nous protégeait de ça, et du coup bah nous, le fait qu'elle nous protège de ça, nous on culpabilisait aussi de notre côté. Tu vois, d'être là et puis de reprendre notre vie, parce que à un moment donné nous on allait bosser, on sortait, on machin, on allait le samedi soir on allait faire la fête, et puis de l'autre côté tu te dis, à 9000 km t'as une femme qui est en train de porter notre bébé, t'as son mari qui est en train de supporter ça que on lui impose, et que sa femme lui impose aussi, mais de notre fête à nous. Donc tout ça c'est sûr qu'il faut être costaud. Faut être un couple costaud aussi, parce que
oui, j'allais vous demander justement comment ça s'est passé entre vous aussi.
Très bien. Hein, ça nous a
en fait je pense qu'on a comme on a pris bien le temps avant de rencontrer moi, je suis un peu lent pour ce genre de décision. Adrien est plus rapide. Mais donc, du coup, à nous deux, ça fait qu'assez vite, on va se renseigner. Et après, on met un peu de temps à digérer et à faire notre décision. Et quand on a pris notre décision, on a aussi écrit un peu notre histoire. Parce qu'en fait, quand tu te rends compte, t'as plein d'histoires différentes. T'as des couples qui décident de donner un peu un rôle à la femme porteuse ou à la donneuse. Nous, oui, mais en aucun cas, c'est une maman. C'est Daniel, quoi. C'est un peu comme si c'était sa fée. Elle était là, elle a aidé. Pour Jeanne, c'est très clair, elle l'a portée dans son ventre. Mais voilà, c'est une cousine, une copine à nous, mais c'est pas une maman ou une tante ou quoi que ce soit. Donc en fait, comme on a pris aussi bien le temps avant de réfléchir à tout ça, de se poser des questions, on a eu plein de gens et plein de situations différentes. Je pense que c'est ça qui fait, quand on était dedans, finalement, ça s'est bien passé.
Oui, parce que j'allais dire, quand tu racontais un petit peu les différents critères qu'il peut y avoir, etc. Enfin, moi, j'ai eu une sensation de vertige quand tu racontais ça, de « Ok, en fait, c'est beaucoup trop de décisions. Qu'est-ce qu'on fait après avec la mère porteuse ?» Déjà, rien que ça, c'est un truc qui doit être un casse-tête incroyable, quoi. Vous avez pris le temps.
Ben nous, en fait, c'était assez
naturel.
Je sais pas si c'est.
Vous étiez d'accord l'un avec l'autre,
ouais, okay. Parce que c'était a posteriori ou si c'était aussi. Mais on a beaucoup discuté quand même.
Ouais.
Mais assez vite, on s'est dit, on veut qu'elle ait un rôle qui sera le sien. On le créera. Il est pas prédéfini à l'avance. Et c'est l'histoire qu'on aura avec cette famille qui le créera. Et en fait, on a eu raison, parce qu'en fait, ça s'est fait de façon hyper naturelle. Et elle, c'était hyper clair aussi. Elle disait, moi, j'ai envie de garder contact, mais ce sera au rythme que vous souhaiterez. Je vais pas m'imposer. Je suis pas sa maman, mais voilà, je veux créer une relation avec vous et avec elle. Et après, la vie fera, on verra comment on s'entend. Et c'est vrai que ça se passe hyper bien. Non, ils sont venus pour les 1 an de Jeanne. On a fait un baptême républicain et c'est 1 an, ils étaient là. Donc ça a permis aussi à nos familles de les rencontrer.
Ah oui,
donc ça, c'était aussi un moment hyper fort en émotion. Nous, on y est allé là en mars, en vacances. On a fait la Floride avec les parents d'Adrien, puis du coup on est passé leur faire un coucou. Donc voilà, c'est devenu des copains outre-Atlantique, mais avec une relation un peu plus,
ouais, un peu
plus forte. Ouais,
c'est... Daniel, elle dit c'est les cousins,
C'est mes cousins de France.
C'est les cousins de France. Donc
ouais. Okay.
Tu sais, si t'as des cousins comme ça à 8000 km, tu peux ne pas les avoir pendant 8 mois ou 1 an, et puis tu vas les voir et tu vas être super content de les voir, ouais. Et tu vas passer des moments magiques. Et puis après, bon bah voilà, chacun reprend sa vie. Et c'est vraiment ça qu'on a construit avec Daniel.
Avant de parler de l'accouchement, comment vous avez la sensation avec le recul d'avoir réussi avec cette aventure à vous transformer en papa pendant la grossesse? Parce que c'est un truc, en tout cas moi, qui m'a beaucoup travaillé en tant que futur papa. J'avais ce truc qui m'a permis de pouvoir grandir en tant que père, en tout cas futur père. Comment vous avez vécu ça de votre côté? Est-ce que vous avez des trucs à me raconter sur le sujet?
En tout cas, on était assez conscients du fait que n'ayant pas la grossesse entre guillemets sous la main avec nous, qu'il allait falloir qu'on ait un chemin un peu différent. Donc, on partageait beaucoup avec Daniel de photos, WhatsApp, de SMS tous les jours, un Skype, je pense, toutes les semaines ou presque. Et après, on s'est un peu renseigné. En fait, je savais que t'allais poser cette question parce qu'elle revient souvent. Je me disais, qu'est-ce que je vais répondre? Non, j'ai l'impression que c'est venu de notre expérience de longtemps, de ce désir d'être papa. Tu prends un peu des histoires à gauche, à droite, des copains, des frères et sœurs, moi, j'ai l'impression de m'être fait mon idée comme ça. Et le fait de le savoir avant, t'essaies de te mettre en condition. Mais en fait, ça arrive vraiment que le jour où t'arrives là-bas, quoi. Mais voilà.
Moi, je pense que j'avais 5 applis différentes sur mon téléphone qui suit la grossesse et pour savoir à quoi ressemble le bébé tel jour. Donc, c'est très différent d'ailleurs d'une appli à l'autre. Et puis oui, il y avait ce contact quasi quotidien. Et après, en fait, au fur et à mesure de l'avancée de la grossesse, ces contacts, ils se densifient. Le lien est de plus en plus fort. Et puis, après, c'est un Skype par semaine, puis c'est un Skype tous les 3 jours, puis tous les 2 jours, puis le dernier mois, c'est un Skype tous les jours. On avait enregistré nos voix qu'on lui avait envoyées pour qu'elle puisse, on chantait des berceuses pour qu'elle puisse faire écouter les berceuses à Jeanne dans le ventre et qu'elle entende nos voix.
Et puis, on s'est posé aussi beaucoup de questions sur la... Donc déjà, on y est allé deux fois. Une fois aux 3 mois de grossesse, quand on, entre Noël et premier de l'an, on a annoncé à Noël, à nos proches et tout, on est allé. C'est là aussi où on a rencontré Daniel physiquement, parce qu'on n'avait fait que des Skype avant. Donc ça, c'était un moment unique, hyper fort. Et on y est retourné du coup à peu près aux 6 mois de grossesse. Et là, quand on est retourné aux 6 mois de grossesse, on avait vachement anticipé. Si jamais tu dois coucher et qu'on n'a pas le temps de venir, le sac de bébé, on avait dormi avec les doudous pendant 2 semaines pour que ça ait notre odeur. On avait lu plein de trucs. On a écrit avec elle aussi le déroulé de l'accouchement. Donc ça, ils font beaucoup ça aux US. Ils écrivent. Alors je sais pas, peut-être en France aussi, tu me diras. Mais en tout cas, eux, ils font beaucoup ça. Ils écrivent. Je veux que ça soit comme ça. Il y a de la musique ou non.
Ah oui.
Et le qui faisait quoi. Aussi entre je coupe le cordon ou pas, qui est là, etc. Donc ça va, nous avait aussi nous aidé à imaginer un peu comment ça allait se passer.
Ouais, pas de préparation à l'accouchement, donc. Bien évidemment. Donc on a acheté des livres, on a lu des livres, on a regardé sur internet, on a discuté avec nos mamans, avec nos sœurs, avec nos copines. Et puis en fait tout ça est quand même très naturel puisque ça s'est fait de manière très naturelle et on nous a jamais expliqué comment changer une couche ou donner le bain et pourtant le premier bain enfin au bout de 30 minutes sans nous montrer c'était nous il y avait plus de nurse c'était déjà à nous de nous occuper de Jeanne. Donc on est allé aux 3 mois, on est allé aux 6 mois. Et puis, on avait tout planifié. Donc, bon, moi, si j'avais pu installer la chambre au bout de 2 semaines de grossesse, je l'aurais fait. Mais Fabien, comme toujours dans notre vie, me mesure et me tempère et fait que je pense qu'on a eu le droit d'installer la chambre au bout de 6 mois.
Ouais. On avait tout le benchmark, le patchwork, de tout était prêt. Du coup, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton acheter. C'était.
Et du coup, effectivement, on voulait que tout soit prêt et que on puisse partir. Pas du jour au lendemain, d'une minute à l'autre en fait. Donc on avait prévu de partir 15 jours avant le terme, puisque c'est ce qu'on avait convenu avec Daniel. Il nous a dit bon, vu mes deux premières grossesses et son obstétricien, faudrait venir 15 jours avant. Donc on avait prévu d'arriver le samedi et puis le mardi.
Non, déjà, on avait avancé d'une semaine. Son obstétricien avait dit elle ne saute pas jusque là, donc décalé d'une semaine.
Donc on avance d'une semaine.
Donc 3 semaines avant le terme.
Ouais. Et donc on devait partir le samedi. Ouais. Et le mardi, elle nous appelle.
Elle m'appelle.
Le mardi d'avant, donc.
Ouais. Elle m'appelle. C'est la première fois qu'on s'était jamais appelé au téléphone, en fait.
Ouais.
Donc moi, j'étais dans ma boîte. J'allais faire une grosse présentation, nouveau président et tout. Donc j'étais un peu stressé. J'avais même pas mangé. Et là, elle l'appelle.
Là, tu sais que c'est l'heure quand elle appelle.
Eh ben, en fait, déjà, quand tu vois son nom, tu dis oulala, il se passe un truc, en fait. Donc t'as la montée de déjà de stress en disant mais merde qu'est-ce qui se passe et là tu réponds elle fait hey comment ça va et là elle te dit je suis 95% sûr que je vais avoir votre enfant maintenant. Alors là tu dis mais non, tu es vraiment sûr parce que je peux partir en catastrophe. Oui mais qu'est-ce qui te fait être sûr? J'ai perdu les os. Et là tu dis ah, et là tout s'arrête, cerveau bloqué. Je ne sais plus quoi répondre. Je pense que j'ai répondu ok, on arrive, je pense, je sais pas, j'appelle Adrien, je te tiens au courant. Et je n'arrivais pas à appeler Adrien, qui ne répondait pas à son téléphone.
Et là, je réponds.
Qu'est-ce que j'étais en train de faire?
En fait, j'étais à déjeuner avec des clients et je vois qu'ils m'appellent 3 fois de suite. Donc là, je m'excuse auprès des clients et je réponds au téléphone. Et là, il me dit, elle a perdu les os, il faut qu'on y aille, elle a perdu les os.
Il me dit, mais arrête, c'est une blague. Ah oui. Mais non, je répète
10 fois, je dis, mais arrête, c'est une blague.
Arrête de me dire ça. C'est nul comme blague.
Et là, je suis parti, je suis venu te chercher. On a fait des pieds et des mains pour, avec Air France pour qu'ils nous trouvent un vol parce qu'ils voulaient nous faire partir. Il n'y a qu'un vol pour Jacksonville par jour et ils voulaient nous faire partir le lendemain.
Ah oui, il était 14h, il dit, un avion demain à 14h. Mais nous, on dit, c'est pas possible, on reste pas sur le sol français ce soir, vous vous démerdez, on va n'importe où, mais on doit quitter la France là.
Et donc on a réussi à trouver un vol qui partait à 18h ou 19h, donc là il était 13h, hein. 18-19h, qui allait à New York, on passait 5h à New York, donc on faisait une micro-sieste et on repartait pour Jacksonville. Et donc il y a eu des retards d'avion, donc là je te laisse imaginer, elle a perdu les os, pas de wifi, pas de téléphone dans les avions. Donc à chaque fois, t'atterris, t'imagines que tu vas avoir une photo de ton bébé qui est né sans toi Et donc ce stress,
ça c'était hyper
ça,
dur.
C'était dur. C'était très dur. On pleurait dans l'avion.
De se dire elle va naître, on sera
elle
pas
va
là.
Naître, on sera pas là. Ouais, ça c'était. Ouais, ça c'était assez dur. Et puis non. Et Daniel qui nous disait vous inquiétez pas les garçons,
je vous attends,
je tiens le coup.
Je vous attends.
Et elle a attendu 30 heures après avoir perdu les os, ouais. Puisque on est arrivé sur le sol, enfin à Jacksonville à 13 heures. On était à 15 heures à la clinique, qui n'était pas tout et, à côté. Ouais. Et Jeanne est née
à 17
heures.
Ah oui.
Donc c'était assez fou. Ce que disent les nurses, c'est que ça arrive souvent dans les couples avec le mari qui est militaire et qui est en Afghanistan, par exemple. Et donc, où la femme a la puissance de l'esprit,
du mental.
Corps, du mental, de faire tenir... Donc bien sûr, elle était surveillée, elle est à l'hôpital,
oui, oui.
Au bout de quelques heures, ça peut être très dangereux. Mais non, elle avait décidé
que ça n'arriverait pas,
ça n'arriverait
tant
pas,
qu'on ne serait pas là.
Tant qu'on serait pas là. Et donc, on arrive là, on la voit, super contente, dans la clinique. On était allé à la clinique 3 mois avant pour repérer les lieux, pour rencontrer l'équipe, pour parler de l'accouchement, quelle va être notre place à chacun, etc. Et puis, on est arrivé là dans cette chambre, donc c'était super parce qu'en plus c'était il y avait pas mal de cliniques où ils accouchent dans la chambre. Donc hop, ils modifient le lit et donc c'était génial parce que ça ressemblait pas à une pièce d'hôpital,
oui.
À une salle d'opération où c'était une chambre.
Et t'as tous les Américains qui disent amazing
ah bah
tout
oui.
le temps. Ouais,
t'es
déjà sur ton nuage, t'es quand même stressé.
Ils nous attendent,
là,
tu vois, nous on
dit amazing guys, you made it et tout. Donc, c'est
et
complètement
nous
fou.
Nous t'es complètement sur une autre planète et tu réalises pas en vrai que tu vas avoir ton bébé dans 2 heures. Et puis,
avec le travail, tu commences à réaliser quand même quand le travail commence.
Bah, le travail commence. Ouais. Là, pareil, super dur parce que tu vois qu'elle a mal.
Ouais.
Tu vois que les contractions se resserrent. Et puis là, c'était dur parce que...
tu peux rien faire. Ah. Tu regardes et...
Ouais. Et tu te dis, qu'est-ce qu'on est en train de lui faire faire à cette dame-là Attends, je me reprends. Qu'est-ce qu'on est en train
t'inquiète.
De lui faire faire qu'est-ce qu'on est en train de lui faire subir Et puis elle, toujours aussi magnifique depuis le début, qui nous rassure, qui dit que ça va aller, que tout va bien, que tout est sous contrôle. Et puis là, on nous demande de sortir pour faire la péridurale. Et donc nous, on sort. Et puis là, on rentre et en fait, c'était parti, quoi. Donc ça a duré une demi-heure.
Je sais plus.
Une
oui,
demi-heure.
C'est, mais c'est court une fois que c'est parti, un quart d'heure.
Une fois que c'est parti, il y avait eu quand même 30 heures avant.
Ça, c'est clair.
Et puis, là, c'était parti. Donc, on a aidé Jeanne à venir au monde. Ça veut dire, donc là, pour que tout le monde s'imagine bien la scène, donc on est dans cette chambre. On a Daniel qui est bien sûr sur le lit. On a son mari John qui est derrière elle.
Qui lui tient
comme
la main.
Tous les pères qui sont derrière, qui la soutient dans ce moment-là. Et puis, Fabien à droite, moi à gauche, de chaque côté. Et on l'aide à faire venir Jeanne au monde. Donc, c'est Fabien qui a sorti Jeanne. Hein ?
Bravo.
Ouais, c'était hyper beau et flippant parce que j'avais trop peur de la laisser tomber.
Oui, de...
Mais non, non.
Et qui me l'a passé, et j'ai fait le pot à pot tout de suite, donc on s'était préparé. Moi, j'étais torse nu pour pouvoir faire tout de suite le pot à pot avec elle.
On a coupé le cordon.
On a coupé le cordon.
Et après.
Et puis c'était parti, on était darons, quoi.
Ouais.
On était darons.
Ouais, c'était ouf. C'était hyper rapide.
Et
là, les nurses, hyper. Elle nous a emmené avec Jeanne et puis on a fait tout ce qu'il fallait faire, les checks,
la peser,
et
tout ça,
nettoyer, enfin la laver et tout. Et ouais.
Je me souviens qu'à un moment donné, on dit à Daniel, tu vois, parce que tu t'es dans ton truc et puis au bout de une demi-heure, ça redescend un peu et là on dit à Daniel, ça va toi Et là elle nous regarde en rigolant, quoi, en mode non, mais attendez, moi j'ai fait ma partie du job et maintenant c'est votre partie qui commence, les garçons. Moi c'est fait, j'ai fait mon job, j'ai fait ma partie, je l'ai fait du mieux que je pouvais Et maintenant, c'est à vous. Donc oui, non, il y a bien sûr qu'il y a aucun problème.
Ouais. Et tu voyais son visage rayonnait vraiment de bonheur et de fierté. Et de bonheur pour nous, tu vois, tu dis, on s'est créé cette relation, elle était heureuse pour nous, elle était heureuse d'avoir accompli sa mission, entre guillemets, de nous aider à être papa. Et ça, c'était génial. Et on a pu rester dans sa chambre, donc on était tous les quatre dans la même chambre, nous on dormait sur des petits canapés.
Tous les cinq avec Jeanne, parce que John était là aussi.
Oui, il y avait son mari, t'as raison. Et donc du coup, pendant deux jours, c'était super. Non, c'était un super moment de découverte, de...
En fait, vous avez vécu un accouchement plus vrai que le mien, j'ai l'impression. Parce que moi, effectivement, j'étais comme John à côté.
Elle.
Moi, je ne voulais pas voir... Voilà.
Mais il ne faut pas. Mais c'est bien fait. La place du mari est très bien derrière.
Je voulais continuer à avoir une vie
sexuelle. Confirme.
Avec
voilà, on confirme.
Tu vois, voilà.
Ça ne nous a pas changé grand-chose.
Et je n'ai pas coupé le cordon, par exemple, parce que moi, j'étais trop abasourdi, en fait. Donc, c'est génial que vous ayez eu cette expérience-là, quoi.
Et ça, en fait, c'était écrit, on s'était posé les questions. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est le fait qu'on avait anticipé ou pas. Après, nous, pour nous, ça... On avait envie, quoi. On n'avait pas vécu la grossesse au quotidien. Ça, c'était vraiment des marqueurs pour nous.
C'était votre moment, quoi.
Ouais, exactement. Et on se réappropriait un peu la fin de la grossesse, du coup, tu vois.
Donc, elle est née à 17h et on est ressorti le surlendemain, de nuit, on a fait. Donc, c'est assez rapide. Et puis, là, on sort avec le cosy et on va dans notre Airbnb qu'on a réservé pour un mois, qui se trouve pas très loin de chez Daniel, parce que Daniel nous avait gentiment proposé de pouvoir tirer son lait pendant le mois où on était là. Et donc, elle nous amenait tous les jours ou tous les deux jours le lait. Et que si on n'avait pas voulu, c'était pas un problème. De toute façon, elle l'aurait donné
un lactarium.
Et voilà, on commence notre vie de père et c'était super naturel, super facile. Je me souviens, on arrive dans la maison, la première chose c'est
couche explosive.
Donc jusqu'au cou, tu sais, là-haut.
Donc et là, t'arrives, la première fois que t'es tout seul, faut donner un premier bain dans un nouvel appartement.
Et puis on a géré, quoi, on a super géré.
Ouais.
C'est parti. On n'a pas arrêté de l'avoir contre nous parce que là c'était super important de créer le lien et donc on arrêtait.
On a fait du pot à pot tout le temps. C'était notre truc pour. C'était tellement génial.
C'était un beau cadeau et pour nous et pour elle. Ces 3 semaines et demie là qu'on a eu avec elle, juste nous trois, les parents, les grands-parents.
Et ça, c'est un conseil qu'on donne à tous nos copains. C'est réservez-vous du temps. Et nous, trois semaines et demie que nous. Alors, Daniel venait régulièrement avec ses enfants et tout, mais on était que nous, quoi. On n'avait pas le défilé de la famille.
Oui,
et
le
tout.
Fameux truc.
On l'a eu après en rentrant à Paris.
Ouais.
Mais du coup.
Mais vous aviez eu un sas.
C'était génial. Ça, c'est.
C'était super.
Ouais.
C'était magique.
Vous savez, le regard fuyant tous les deux. En train d'y repenser.
Ouais, c'était moi je me souviens avoir pleuré pendant 3 semaines, quoi. Là-bas, je faisais que de pleurer. Ouais. Je pleurais tout le temps.
Et surtout, on avait un bon système de relais, donc la nuit, on faisait une nuit chacun. Du coup, c'est bien parce que tu as tout moment toi tout seul avec ton bébé. Et ça, c'est canon aussi.
Et puis, on est revenu ici, 3 semaines et demie. Donc, administrativement parlant, Jeanne, elle a la nationalité française parce qu'elle a le droit du sang. À la nationalité américaine, puisqu'elle a le droit du sol. Donc on revient.
Ça aussi, c'est un chouette cadeau.
Ouais.
Double nationalité.
Ouais.
Donc elle revient sans aucun problème, bien évidemment, puisqu'elle a la nationalité américaine, même si au début, elle n'a pas son passeport. Elle a son passeport américain tout de suite, en trois jours, au bout de 3 semaines, mais on l'a eu en 3 jours là-bas. Et donc elle voyage avec son passeport américain et on arrive en France et puis on fait les demandes pour avoir la carte nationale d'identité, pour avoir le passeport. Donc tout ça, ça marche bien. Alors ça marche bien, sauf qu'il faut là pour le coup, il faut pas dire que c'est une GPA.
Il faut un peu mentir quand même.
Ah ouais.
Faut un peu pas dire. Le mensonge par
omission. Faut pas dire, quoi. Donc
maintenant ça a changé a priori.
Maintenant ça a changé.
Mais à l'époque, ouais.
Donc on nous avait conseillé l'avocat ici en France. Nous avait conseillé pour avoir facilement les papiers, tu les auras de toute façon parce qu'elle est française. Mais si on peut éviter 3 mois et puis des tribunaux et des machins, Donc là, c'était facile. Et puis à l'époque, ce qu'il fallait faire, c'était adopter que le deuxième papa, puisque là, on revient avec donc Jeanne, elle a un certificat de naissance avec l'un de nous deux qui est le père biologique sur le certificat de naissance. Et donc, il faut faire une adoption là-bas en Floride. Donc, 6 mois après, on a fait l'adoption là-bas en Floride par Skype. Hein. Donc, on était dans la salle d'audience en Skype. Et ensuite, une fois qu'on a reçu ce jugement d'adoption, c'est ce jugement-là qu'on a fait transcrire en droit français. Et donc, ça a pris 18 mois. Donc, c'est long, mais ça a pris 18 mois. Et dans ce processus-là, on a reçu la transcription de l'adoption. Donc, tout de suite après, on a reçu, quelques jours après, notre livret de famille qu'on avait eu à notre mariage avec Jeanne inscrite dedans avec deux pères. Un nouveau certificat de naissance avec deux pères. Donc voilà, une adoption plénière, puisque là-bas aux États-Unis, il n'y a que ça, donc ça veut dire que nécessairement ce qui était retranscrit ici, c'était ça. Donc voilà, aujourd'hui, je crois que c'est un peu plus simple. Il n'y a plus besoin d'adopter, en tout cas les couples qu'on a autour de nous, il n'y a plus besoin d'adopter là-bas.
Okay.
Simplement, si tu as un certificat de naissance avec deux pères là-bas, tu peux le transcrire ici en France. Donc ça se simplifie. Il ne faut pas oublier que ce qui est interdit, c'est la gestation pour autrui sur le sol français.
J'allais vous demander, c'est quoi votre point de vue justement sur le fait que ce soit si long à arriver en France et que... Bon, je ne pense pas que ce soit près d'arriver d'ailleurs, hein, ça a l'air d'être compliqué. Hein.
Moi, ce qui me gêne souvent dans les discussions, c'est le manque d'informations réelles. Je disais tout à l'heure, personne, enfin moi, il y a zéro personne avec qui j'ai discuté qui savait que c'était pas les ovules de la mère porteuse. Et ça, du coup, ça me gêne parce qu'il y a tellement de débats au-dessus de ça, autour de ça déjà, alors qu'on parle même pas de la légalisation, de pas avoir cette pièce d'information, importante. Et souvent, les gens disent, ça va alors. Et donc en fait, tu sens bien que c'est un élément qui est assez déclencheur. Et t'as tout ce côté aussi lié à la génétique par rapport à nous. Il y a un de nous deux qui est pas le père génétique, mais elle a deux papas quoi. Et ça c'est aussi un peu le deuxième truc qui me gêne. Le côté, c'est forcément le géniteur, alors qu'on voit bien il y a plein de familles recomposées.
Oui,
enfin, il y a pas que ça quoi.
La famille loin n'est plus celle d'il y a 100 ans. Bon après,
puis même il y a 100 ans, je pense que c'était pas.
Oui
non
oui,
plus,
c'est ça. Ça
ouais,
savait pas.
C'est clair.
On le disait pas.
Ouais, c'est clair.
Ouais.
Non après, c'est vrai qu'ils font beaucoup de mal les opposants. Opposants à tout. Hein, la manif pour tous, c'est pas que la GPA, c'est le mariage pour tous.
Ouais.
Enfin nous, je sais que on avait la chance d'avoir 30 ans quand la manif pour tous est descendue dans la rue. Et moi j'ai pensé à ces gamins qui avaient 13-14 ans à l'époque. Et qui se retrouvait face à cette haine de l'autre, hein, et avec des gens qui descendent dans la rue pour priver de certaines libertés d'autres, alors que ça leur enlève rien à eux. Et ça, c'est vrai que c'était très dur. Et puis, ils continuent quoi, ils continuent avec aujourd'hui. Et puis encore une fois, la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas aux mères porteuses, ils ne parlent pas à ses enfants qui sont. On ne les écoute pas. La jeune fille, les enfants du couple Ménisson, que je voyais sur un plateau télé l'autre fois, qui se défendait devant la présidente de la manif pour
Ludovine tous. De la Rochère.
Que je n'y aurais pas donné le plaisir de la citer, mais en tout cas. Elle disait, mais laissez-nous tranquille, quoi.
Enfin, moi, j'ai accès à mes origines. Je sais très bien comment je suis né. Et ça, c'est aussi une façon qui est assez commune dans tous les gens qu'on rencontre. Il n'y a pas de mensonge, en fait.
Jeanne, elle a eu 3 ans samedi dernier. Tu lui demandes, on va pas la réveiller. Hein. Tu lui demandes comment elle est née. Elle sait. Elle dit qu'elle était dans le ventre de Daniel. Et elle le sait. Et on a, il y a des livres de photos qu'on fait traîner sur les tables depuis qu'elle est toute petite, où il y a des photos de nous là-bas avec elle. Elle connaît son histoire. Elle saura plus tard, quand elle sera en âge, dans quelques années, qu'elle comprendra que son histoire n'est pas celle de tout le monde. Mais vu qu'on lui aura expliqué les choses, qu'on aura mis des mots dessus, enfin, ça sera naturel.
Ça sera naturel pour elle, quoi.
Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent en France. T'en as qui ont donc 16, 17, 18 ans. Et enfin, tous sont unanimes, quoi. Et puis, pour terminer, je dirais que je veux pas... Enfin, nous, cette petite fille-là qui est en train de dormir dans la pièce d'à côté, je te laisse imaginer la force avec laquelle on l'a voulu.
J'allais dire, est-ce que c'est pas l'amour, finalement, qui fait que les enfants sont épanouis?
Bien sûr. Bien
que
sûr,
même en tant que deux darons, vous seriez pas capable d'en donner beaucoup.
Ouais. Non, mais...
Ouais.
Enfin, on l'a voulu plus que tout au monde, cette petite fille. Donc, je pense que, ouais, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont autant voulus, souhaités que ces enfants nés par GPA avec tout le parcours qu'on vient d'expliquer. Enfin, faut vraiment les vouloir, ces enfants, et faut vraiment vouloir leur donner du bonheur et de l'amour. Parce que c'est vraiment pas simple. Mais après, c'est tellement, voilà, tellement de joie, et on est juste une famille comme les autres. Nous, tout ce qu'on demande et tout ce qu'on veut, et c'est pour ça que on entend beaucoup la manif pour tous, parce qu'ils font beaucoup de bruit. Ils sont pas nombreux, hein. Ils font beaucoup de bruit. Mais les principaux concernés, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas autant de bruit? Parce qu'ils sont, enfin, nous, on se considère juste normaux, et on veut juste une vie normale. On a une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Alors oui, il y a deux papas, mais comme quand il n'y a qu'un papa, qu'une maman, des divorcés, des séparés, des recomposés, des... Et c'est juste, notre famille, elle est un peu différente.
Et ça, c'est un peu notre acte à nous, un peu, pas de militantisme, mais de ce qu'on fait là, avec toi, discuter. On a toujours été plutôt ouvert aussi aux gens qui nous posent des questions, tant que c'est respectueux. Même au travail et tout, sur comment ça s'est passé, et pourquoi et comment. Et on se dit, voilà, c'est en fait en expliquant aussi de façon simple comment ça se passe, les gens... Voilà, les gens le découvrent, et c'est en fait avant tout finalement une belle histoire de rencontre avec Daniel et sa famille. Et c'est vrai qu'on en revient souvent à ça, mais la vraie histoire, elle est là.
Est-ce qu'il y a une question que j'aurais pu vous poser, que je ne vous ai pas posée, qu'on vous pose souvent?
Comment ils nous appellent?
Ah oui.
Ah,
comment ils vous appellent?
Ça fascine les gens, mais comment ils vous appellent?
Ah oui, parce que j'ai entendu tout à l'heure dire papa,
ouais.
Et c'est toi qui t'es levé.
Ouais. En fait, elle nous appelle Papa Adri et Papa Fab.
Ah, yes.
Et des fois, elle fait que un, elle fait que papa, et quand c'est pas le bon qui arrive, elle spécifie lequel c'est. Mais c'est toujours lequel elle veut.
C'est un peu comme, tu vois, un enfant, toi, si ta fille, elle va te dire papa, maman, bah, t'en as un des deux qui va venir.
Oui.
Bah, nous, c'est pareil, nous, c'est papa, et ça veut dire, bon, bah, faut qu'il y en ait un qui vienne.
Ouais.
Et si elle veut le nommer, elle sait très bien le nommer. Et puis, quand on est tout seul avec elle, c'est papa. Il n'y a pas de. Et. Non, ça c'est... Effectivement, après on respecte, il y en a qui choisissent de donner un nom différent, de bien notifier le fait qu'il y a un père biologique et l'autre n'est pas biologique, et donc il y en a un qui s'appelle papa et l'autre s'appelle daddy. Ou... Voilà, on respecte ce choix, c'était pas le nôtre, parce que, encore une fois, la génétique n'a que peu d'importance dans tout ça pour nous, et notre famille c'est deux papas. Voilà.
Il y a une question que je pose à tous les darons. Mettons que Jeanne écoute ce podcast dans 10 ans, donc elle aura 13 ans. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire?
Beaucoup de choses. Je pense, un, que je l'aime, toujours, quoi qu'il arrive. Donc, moi, ça me fait un peu peur, l'adolescence. Et là, elle sera, je pense, dans l'adolescence. Donc, quoi qu'il arrive, je t'aime. Ne fais pas trop de bêtises, mais je t'aimerais quand même. Reviens toujours à la maison. On sent un peu le stress, hein, du daron. Et surtout qu'elle s'aime comme elle est. Voilà, l'adolescence, c'est une période qui est difficile, on se cherche. Voilà. Et je t'aime.
Moi, je lui dirais tout simplement qu'elle a effectivement que sa famille, elle est pas forcément comme toutes les autres. Mais qu'elle a deux papas qui l'aiment très fort et qui seront toujours là pour elle, quoi qu'il arrive, quel que soit le moment de la journée ou de la nuit, elle sait qu'elle peut compter sur ses papas et qu'on sera toujours là pour elle.
Eh ben merci.
Merci à toi.
Merci
à toi.
C'était génial. Vraiment, un grand, grand merci pour tout. C'était trop bien.
Merci à toi.
Je vous souhaite vraiment une belle vie, parce que vous avez l'air super heureux avec la petite là.
Merci.
Merci.
Salut.
C'est terminé pour cet épisode. Un grand, grand merci d'avoir écouté. Je vous invite à venir réagir soit sur l'Instagram de Rocky, c'est sur RockyMag, R-O-C-K-I-E-M-A-G, soit sur mon Instagram perso, moi je suis sur FabFlorent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, soit sur YouTube, sous la vidéo de cet épisode. Vous trouverez le lien dans les notes du podcast. J'adore lire vos commentaires. Je vous rappelle aussi que si le concept vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, partager sur les réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire ou une situation qui fait de vous un daron un peu particulier, vous pouvez écrire un mail à histoirededaron@rockymac.com, histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S. Je vous mets l'adresse directement dans les notes du podcast. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de Daron sort chaque premier et troisième lundi de chaque mois. Rendez-vous donc très bientôt pour le prochain et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.